Julie Crosby. To see transcripts and our video and audio podcasts of each show, go to democracynow.org, as well as our extended interview with Isabel Allende. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez.
My radio stuck on CKUT. I don't know. But nah, fix it. CKUT, the number one radio station in Montreal. We give you the sun, the moon, the rain, the stars and the mountain. CKUT give you the word.
And this is Angela Davis. You're listening to CKUT 98.3.
Angela, you're one of a million.
Wilma Espin. It was on August the 23rd, 1960, that the formation of the Federation of Cuban Women, or the FMC, took place. The FMC organized masses of women by going from house to house in both cities and the countryside to sensitize and recruit women needed to set up militias and committees for the defense of the revolution, as well as to set up literacy programs, schools for peasant women, and networks of child care centers. Instrumental in setting up the Federation of Cuban Women, as well as serving as its president for more than 20 years, Wilma Espin played a very active part in the effort to overthrow the repressive Batista government. She was a prominent figure in the underground movement in Santiago de Cuba, where she organized clandestine work for the failed revolutionary attempt of July the 26th, 1953. After 1953, she joined and shared many responsibilities within the rebel army in the Sierra Maestra. After the Cuban Revolution, her main activities took place within the Federation of Cuban Women and as a member of the Central Committee for the Communist Party of Cuba. Espin and other women involved in revolutionary activities in pre-revolutionary Cuba knew that women needed education both to help them improve their daily lives and to participate in the efforts to overthrow imperialism. Espin and the FMC recognized that feminism and socialism needed each other to succeed.
My mom likes this one. My mom likes this one. My mom likes this one. But don't let that put you off.
Making space for women's voices, the voice of her say. The voice of her say. The voice of her say, coming at ya every Wednesday from 6 to 7.
R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, think of T-C-T.
Allô à toutes avec un crisse de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast queer, féministe, interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement, à la vitesse où on se fait dire « Hey, dans mon temps, on marchait 2 kilomètres pour aller à l'école matin et soir, quand on chialait pour faire la vaisselle quand on est enfant. » On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de plus ou moins trentenaires bien à bout de ce monde-là qu'on travaille à chemer à grands coups de podcast.
Dans le fond, là, tout ou pantoute, c'est comme l'application de Boggle en ligne qui permettrait à mes grands-parents de me battre même à distance parce qu'elles sont les seules à pouvoir me vaincre.
Bon, aujourd'hui, l'avez-vous deviné, on parle de transmission intergénérationnelle dans une entrevue que Laurie a fait avec Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice au projet Trait d'Union d'Interligne. Puis, on va partir sur toutes sortes de chiens de notre bord, bien évidemment.
On est en direct de Villeray à Montréal, puis de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve.
Ici Alexandra Turgeon.
Et Laurie Perron. Vous écoutez. Tout ou pantoute.
Tout ou pantoute.
We'll be right back.
semaine. Si jamais ça vous tente d'avoir du contenu exclusif de Toutes Pantoutes, puis de nous aider financièrement en même temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre page Patreon. Vous pouvez choisir un niveau d'abonnement qui vous convient. Ça commence à 3 $ par mois, puis vous avez accès à full le contenu exclusif qui est déjà là, qu'on a déjà produit, puis on continue d'enregistrer des épisodes exclusifs mensuels jusqu'à la fin de la saison. Permission de vous inscrire juste pour un petit bout, puis de vous désinscrire après quand vous êtes tanné de garrocher de l'argent par la fenêtre. Le lien est dans les notes de l'épisode, ou vous pouvez aussi googler Patreon tout ou pas tout. Puis, si vous choisissez juste de profiter de notre contenu principal qui est gratuit et fait avec amour, on n'est vraiment pas fru. Merci beaucoup d'être là. OK, on retourne à l'épisode.
L'entrevue d'aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de Tout ou Pantoute parce qu'on a voulu mettre de l'avant un projet en particulier d'un organisme dont on vous a parlé à plusieurs reprises déjà dans le cadre de divers épisodes. J'ai nommé Interligne et leur projet Trait d'Union. Pour en parler plus en profondeur puis vous expliquer c'est quoi le projet, j'ai pu discuter avec Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice du projet, qui a réfléchi de long en large aux liens entre les générations, particulièrement dans la communauté LGBTQI2A+. C'était vraiment pertinent pour moi de mettre ce projet-là de l'avant en parlant de transmission intergénérationnelle, puis vous allez bien vite comprendre pourquoi dans l'entrevue qui s'en vient, drette tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je déroge un peu de mon rôle habituel de spécialiste des arts pour vous parler d'un projet qui me semblait particulièrement à propos dans le cadre de l'épisode du jour, et j'ai nommé le projet Trait d'Union. Lancé par Interligne, un centre de première ligne dédié aux gens concernés par la diversité sexuelle ou de genre, le projet Trait d'Union propose un jumelage entre jeunes et aînés de la communauté LGBTQI2A+, dans le but d'établir une correspondance. Bon, là, je suis allée très grossièrement, mais pour nous en parler mieux et plus en profondeur, j'accueille à l'instant Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice des services et de l'intervention clinique chez Interligne. Alors, bonjour Mireille!
Bonjour Laurie!
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pensé à Interligne.
Ça me fait vraiment plaisir. En tout premier lieu, j'aimerais ça que tu nous donnes les grandes lignes du projet Trait d'Union, puis peut-être d'où est venue l'idée de ce projet-là.
Oui, bien, les grandes lignes, tu les as quand même bien expliquées. C'est un projet de correspondance, spécifiquement intergénérationnel à travers les communautés LGBTQ+. Donc, l'objectif, c'est de mettre en contact des jeunes de 25 ans et moins et des aînés de 60 ans et plus du Québec, puis les amener à s'engager dans un échange de lettres manuscrites. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est offrir un canal pour des échanges, pour favoriser la compréhension mutuelle entre les deux générations qui sont séparées vraiment souvent par le temps, mais par beaucoup d'autres facteurs sociaux qui fait que c'est plus difficile de se parler ensemble quand on prend pas le temps de le faire. Et puis l'idée, en fait, pour la deuxième partie de ta question, chez nous, chez Interligne, toutes les idées, on les pense en équipe, on essaie d'être le plus créatif possible quand on parle de nouveaux projets. C'était pas la première fois qu'on parlait d'échange de lettres manuscrites, c'est venu sous différentes formes dans nos discussions. On a eu l'opportunité, en fait, on a vu l'appel de projet du secrétariat à la jeunesse, qui est en fait le secrétariat qui finance ce projet-là. Ça nous a permis, en fait, de vraiment se lancer puis d'avoir les moyens de nos ambitions. On se cachera pas que la pandémie à la COVID-19 nous a donné un petit peu le coup de pied supplémentaire pour dire, les besoins sont là présentement, donc on y va.
C'est clair. Ayant été moi-même une jeune queer désemparée du lac Saint-Jean, puis devant le manque de ressources en diversité sexuelle en dehors de la métropole, qui est quand même assez criant selon ma perception à moi, une des questions qui me brûle toujours les lèvres, c'est est-ce que les gens de partout dans la province sont admissibles au projet?
Évidemment, en fait, c'est une évidence pour nous. Moi, je viens de la Côte-Nord aussi. Qui est pas loin du Saguenay, donc j'aurais pas laissé passer ça de mon côté si ça avait été un projet montréalo-centré, mais non, c'est partout au Québec, en fait, c'est même partout au Canada. C'est tant qu'on a une adresse postale, étant donné que ce sont des lettres manuscrites et qu'on doit envoyer la lettre quelque part. Donc, tout le monde qui a une adresse postale peut s'inscrire à Trait d'Union. Et l'objectif, c'est vraiment justement de faciliter ces contacts-là qui n'auraient pas autrement à cause de la distance. Et sachant que c'est pas tout le monde non plus qui ont accès à Internet. Puis, faut savoir aussi que pour justement améliorer l'accès, on va fournir des timbres, on va fournir le matériel. Pour nous, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être le plus accessible possible. Et même qu'on encourage vraiment les gens de partout du Québec à s'inscrire parce que on pense que ça va être des échanges qui vont être d'autant plus enrichissants d'avoir quelqu'un de Montréal qui parle avec quelqu'un de Natashquan, par exemple, ou de la Baie des Chaleurs pour parler, tu sais, de l'évolution de leur réalité dans leur coin. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour eux? Et c'est quoi les différences? Et c'est quoi les similarités aussi? Pour nous, c'est très enrichissant.
Je pense que votre projet est vraiment ciblé de façon intéressante parce qu'il y a clairement un clivage entre les générations, là, entre les jeunes de moins de 25 ans puis les aînés. La communication, à part à l'intérieur des familles, puis même des fois encore là, ça se fait peu. Il n'y a pas beaucoup de lieux où la mixité entre ces groupes d'âge-là se fait naturellement. C'est quelque chose qu'on remarque partout, là, pas juste dans le queerness, mettons. Là, mais est-ce que tu sens, toi, que les jeunes qui joignent le projet sont avides de comprendre d'où viennent les libertés qu'on a aujourd'hui? Ou...
Oui. En fait, je pense que si ces jeunes-là n'étaient pas intéressés, ne s'inscriraient pas, et c'est d'autant vrai de l'autre côté aussi, là, les personnes qui sont plus aînées aussi le feraient pas. Je pense que les jeunes qui s'inscrivent ont déjà une certaine conscience, hein, du legs riche puis des luttes difficiles qui ont été vécues par les personnes aînées LGBTQ+, puis qui ont mené à une certaine liberté qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que personne queer au Québec et au Canada. Puis j'ai l'impression que c'est au-delà du générationnel, là, donc que c'est pas simplement d'entendre une autre génération parler ou d'entendre une personne aînée parler, mais c'est d'avoir ce contact, cette connexion personnelle-là avec quelqu'un qui a vécu des réalités semblables, mais à une autre époque que la sienne, avec des réalités différentes, des contraintes différentes. Je pense que les jeunes reconnaissent cette valeur-là en s'inscrivant au projet. Puis, comme je disais, je pense que c'est tout aussi vrai vraiment de l'autre côté. Je pense que les personnes aînées s'intéressent vraiment aux effets qu'ont eu leur lutte. Ils s'intéressent aux jeunes puis à leurs combats qu'ils mènent aujourd'hui. Donc, c'est quoi les combats qu'eux ont menés versus les nouveaux combats, les nouvelles luttes. Puis là, je parle de lutte et de combat, mais c'est aussi la vie quotidienne, c'est quoi la différence et qu'est-ce que eux ont pu donner et qu'est-ce que eux ont fait pour amener une facilité puis une liberté que les jeunes peuvent vivre maintenant.
C'est vraiment beau. Selon toi, qu'est-ce que les aînés recherchent en s'inscrivant à Trait d'Union? Qu'est-ce qu'elles veulent transmettre aux jeunes?
Je pense qu'il y a des choses qui sont très personnelles et qu'il y a des choses que je pourrais pas ramener là, dans le sens que chaque personne a des besoins derrière, mais de façon disons globale ou générationnelle, je pense que le désir de connexion est vraiment présent. Je pense que pour certaines personnes aînées, il y a encore le besoin et de connecter comme ça, d'écrire à des jeunes, ça peut être une façon de se sentir encore comme une personne importante. Parce que dans la société, on a souvent tendance un petit peu à écarter les personnes aînées comme on le ferait avec des enfants, comme étant des gens qui ne contribuent pas ou ne contribuent peu à la société. Bon, ils ont eu leur vie adulte, ils ont travaillé, ils ont payé leurs impôts, ils ont fait leur lutte, puis maintenant qu'ils sont des personnes aînées, ben ils contribuent pas, alors que c'est entièrement faux. Puis je pense que c'est justement une façon, et puis il y a énormément de façons de contribuer, mais c'est peut-être une façon de sentir qu'on contribue, puis qu'on contribue dans la vie de quelqu'un en particulier avec cet échange-là. Et encore, comme je disais tout à l'heure, ben de sentir qu'on a fait une différence. Puis je pense que c'est très humain de voir, d'avoir ce besoin-là, de sentir qu'on laisse quelque chose à la société. Et peut-être qu'écrire, ça peut aussi être... ça peut avoir l'air un peu de... d'écrire son mémoire aussi, hein, tu sais, on laisse quelque chose de sa vie personnelle, hein, c'est très beau, en fait, je trouve, que autant de personnes aînées souhaitent s'inscrire à notre programme parce qu'il y a quand même beaucoup d'inscriptions, là, au niveau des personnes aînées.
Ça me fait réaliser que mes questions en soi aussi allaient dans un sens qui est pas génial de, les luttes passées de ces personnes-là, puis le passé, mais c'est vrai que les personnes aînées s'inscrivent actuellement encore dans le quotidien puis la vie, c'est la sphère sociale.
Oui, il y a des luttes passées, il y a des luttes présentes, il va y avoir des luttes futures, mais effectivement, des fois, on oublie que toutes ces personnes-là continuent de contribuer d'une très grande façon à la société, même si on leur laisse pas beaucoup l'opportunité, je pense, de le faire à certains égards, là.
Ouais, c'est comme un peu quand les ados font des manifestations puis qu'on dit « Ah, eux autres, ils vont influencer plus tard, mais non, ils influencent déjà. » J'ai l'impression que grâce à Internet ou à des programmes comme le vôtre ou d'autres, là, les Gris Alter Ego puis d'autres organismes de support pour les jeunes LGBTQIA+, puis aux luttes passées qui nous permettent de vivre une certaine liberté qui nous permet d'espérer carrément vivre plutôt que juste survivre, là, ma génération puis probablement les suivantes dispose de connaissances puis d'outils plus poussés en termes d'affirmation identitaire puis d'épanouissement de la sexualité que ce à quoi les aînés de votre programme pouvaient avoir accès du temps de leur jeunesse. Est-ce que tu constates toi aussi cet élargissement-là des connaissances ou est-ce que c'est une fausse perception due au manque de communication intergénérationnelle dont je parlais tantôt?
C'est une question très intéressante, en fait, dans laquelle je pense que juste ta question en tant que telle a vraiment beaucoup d'informations qui sont très vraies. Je pense que les générations plus jeunes ont eu accès, puis je m'inclus là, dès l'enfance et le début de l'adolescence, à une information, à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, c'est sûr et certain. Et les différentes plateformes qui sont mises en place, autant les réseaux sociaux que les forums, donc les plateformes qui sont là permettent davantage de discuter. Puis malgré que ce soit en ligne, bien, c'est un espace de revendication supplémentaire qui n'était pas disponible pour les générations plus âgés. On parle souvent, quand on parle de lutte, de militantisme, de prendre la place, de prendre l'espace, mais cet espace-là, il existe davantage maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, donc c'est possible de davantage prendre de place, même si c'est pas tout le temps facile de le faire. Et ce que je pense qui joue vraiment, une chose que tu as nommée, c'est que pour beaucoup de personnes aînées LGBTQ+, ben on était loin d'être dans, et c'est pas vrai pour tout le monde, mais on était loin d'être dans l'épanouissement, dans l'actualisation de soi en tant que personne LGBTQ+. On était beaucoup dans, est-ce que quand je vais sortir, ma sécurité est en danger? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que en fait, beaucoup pensaient devoir se cacher toute leur vie. Beaucoup ont fait le choix, en fait, de ne pas vivre leur réelle orientation sexuelle ou leur réelle identité de genre par crainte, par peur, et réelle, là, pas des craintes et peurs infondées, là, mais vraiment des menaces et un cadre social qui faisait que l'idée de s'informer sur spécifiquement les différentes réalités et d'aller dans l'actualisation, je crois pas que c'était une idée qui était même là, qui était même possible pour eux de réfléchir à ça, étant donné qu'on était davantage, comme tu disais, dans une survie en tant que communauté puis en tant que personne.
Mm-hmm. Je te lance la question inverse de tantôt. Qu'est-ce que tu penses que les jeunes ont à apporter aux aînés par votre programme?
Ah ben moi je pense que tout le monde peut apprendre de l'expérience de tous, peu importe son âge à soi ou l'âge de l'autre personne. Je pense qu'on peut apprendre de l'expérience personnelle de chaque personne, mais je pense aussi qu'il y a des préjugés envers les générations un peu plus jeunes concernant le cliché de l'enfant roi entre autres qui perdure encore beaucoup hein. Les générations plus jeunes ont l'impression que les générations plus vieilles ont l'impression que les plus jeunes veulent tout avoir rapidement et se rendent pas compte je crois de toutes les luttes que les jeunes vont mener du travail qu'ils font encore, autant pour eux que pour le reste de la société. Je pense que ça, c'est quelque chose que les personnes aînées peuvent apprendre à quel point les jeunes continuent de se battre et prennent la relève vraiment puis amènent les luttes à un autre niveau parce que la lutte est rendue à un autre niveau. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point les nouvelles générations sont passionnées par la même justice sociale que les personnes aînées ont été passionnées ou pour lesquelles se sont battues. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être appris et je souhaite vraiment que le programme puisse le permettre de façon un peu cliché. Je pense que c'est bien aussi de voir à quel point les jeunes peuvent démontrer à quel point les esprits se sont vraiment ouverts, puis qu'on les personnes aînées peuvent voir à travers les générations plus jeunes des choses qu'ils n'auraient jamais pensé voir il y a 20, 30 ou 40 ans. Comme par exemple le fait qu'on a un show de drag queen qui est écouté par des millions de personnes à travers le monde. Là. Donc, le fait que ce soit possible et ce soit même célébré.
C'est vrai. Wow! Il y a vraiment beaucoup d'échanges qui peuvent se faire avec beaucoup de richesse. Beaucoup de valeurs dans la vie se transmettent dans un contexte familial, je pense. Mais dans le cas des jeunes LGBTQI2A+, de toute époque, là, les jeunes d'aujourd'hui comme les jeunes d'avant, les liens familiaux sont des fois fragilisés par les préjugés et l'incompréhension de certains parents. On parle souvent de famille choisie dans le milieu queer. Est-ce que le projet Trait d'union peut permettre à des gens de se construire une famille choisie via leur relation avec leur partenaire assigné?
Mon Dieu, on l'espère, vraiment. C'est un grand souhait qu'on a, en fait. Et autant pour les jeunes que pour les personnes LGBTQ+, qui vont participer, hein. Étant donné que on sait souvent les familles choisies, c'est généralement des gens qui ont le même âge et c'est important de pouvoir créer ces liens-là aussi, puis de se construire une famille peut-être un peu plus large avec des gens qui peuvent s'entraider, peu importe c'est quoi le besoin. Donc, évidemment, on souhaite que le programme puisse permettre de créer des liens forts et significatifs, des liens qui sont durables, soutenants, parce que tout le monde en a besoin de ces liens-là.
Tellement. Des échanges dans le projet Trait d'union se font par lettre manuscrite, comme tu le disais tantôt. Pourquoi ce choix-là, puis qu'est-ce que ça apporte de plus au projet?
C'est vraiment une bonne question, en fait, à laquelle c'est assez difficile de se pencher puis de répondre, mais en fait, selon moi, il y a vraiment plusieurs avantages au fait que ce soit une lettre manuscrite. Premièrement, mais c'est très personnel. On a accès vraiment à quelque chose de l'autre qu'on a peu accès présentement, entre autres la main d'écriture. Il y a vraiment un lien direct entre le cerveau puis la main qui est pas présent quand on écrit sur un ordinateur. Donc, on a accès à une autre partie du cerveau de l'autre lorsque la personne écrit à la main. Je pense aussi que on prend plus le temps de réfléchir à nos mots quand on va les coucher sur papier parce que c'est plus difficile d'effacer, c'est plus difficile de recommencer. Et en même temps, c'est plus intuitif parce que justement, on recommence pas tout à zéro aussi facilement qu'on va le faire sur, par exemple, un traitement de texte. Donc, ou contrôle A efface, je recommence tout. Là, on a déjà fait un chemin, donc on continue avec ce qu'on a écrit, même si on n'est pas toujours nécessairement 100% satisfait. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant avec l'écriture. Puis, c'est aussi accessible, je pense, pour différentes personnes qui n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur ou pour qui l'ordinateur est quelque chose de frustrant. Donc, on essaie de retirer cette barrière-là. Et je ne me le cacherai pas, moi, à chaque fois que je parlais du projet, juste le fait de recevoir une lettre qui t'est adressée, qui est une lettre manuscrite, c'est rare et c'est spécial maintenant. C'est quelque chose c'est un peu comme une pensée supplémentaire. C'est un privilège que quelqu'un ait pris le temps de s'asseoir, de nous écrire de façon manuscrite, nous l'envoyer. Tout le petit rituel autour d'envoyer et de recevoir une lettre manuscrite. C'est vraiment un côté spécial qu'on voulait recréer avec ça. Et pour qui était dans la vie des personnes aînées et que les jeunes ont beaucoup moins connu. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on essaie de ramener avec ça.
C'est vrai. Même Hydro nous envoie à peine des lettres aujourd'hui.
Oui, moi, j'avoue que je reçois mes paiements de permis de conduire et des annonces de télécommunication une fois de temps en temps. Sinon, c'est rare les lettres que je reçois.
Oh, une chance que vous remédiez à ça. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir de Trait d'union?
C'est quelque chose sur lequel je ne peux pas m'avancer, évidemment. Par contre, je veux que ce soit clair que quand chez Interling, on met quelque chose en place, notre désir, c'est que ce soit quelque chose qui reste. Donc, on travaille toujours en ce sens-là et on travaille aussi dans le sens que présentement, c'est un projet intergénérationnel on travaille toujours à le rendre accessible au plus de gens possible. Donc, c'est à ça qu'on peut s'attendre sans que je m'avance parce que, évidemment, je veux pas créer de fausses attentes, mais on travaille toujours pour rendre ça le plus accessible et longivital. Ce n'est pas le bon terme. Long possible, disons. Long dans le temps. On veut que ça dure, c'est ça qu'on veut.
C'est un bon néologisme, c'est correct.
Longivital, parfait. Je te le donne, tu as le droit d'utiliser.
Yes, merci. J'ai hâte que peut-être un jour les quasi-trentenaires queer qui aiment la calligraphie comme moi, on puisse se joindre à un projet comme ça.
Ah oh, oui, je vais avouer que si on l'offre et que si on est en mesure de le faire et que j'ai le droit de participer, c'est sûr et certain que je m'inscris aussi là. Avoir un pen pal au Québec, c'est pas nécessairement facile, à part quand on est à l'école, on s'inscrit dans des petites choses comme ça. Mais là, en plus, pour une communauté en particulier qui a peu d'espace, sauf des espaces virtuels, puis même là, c'est pas des espaces intimes, les espaces virtuels qu'on a. Avoir cet espace-là, je le souhaite vraiment à tout le monde. Puis, comme je vous dis, on travaille vraiment fort pour l'offrir.
C'est vraiment gentil de travailler fort. Pour le reste, on verra. Pour le bénéfice de nos auditoristes, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible de s'inscrire au projet Trade Union?
Oui, c'est très facile. En fait, c'est à l'aide d'un formulaire d'inscription. Les gens doivent se rendre au interligne.co et non .com, donc interligne.co/Trade Union. Dans un seul mot, aucun accent. C'est possible de lire un petit peu plus sur le projet, sur cette page-là directement, le lien vers le formulaire d'inscription également. Et il y a des guides aussi qui vont être offerts, des guides pratiques et informatifs qui peuvent donner, qui donnent la marche à suivre au niveau matériel, comment ça fonctionne, mais aussi des fois des idées de choses à aborder, certaines informations qui concernent des générations en particulier. Donc, c'est un guide qui est super intéressant, qu'on peut envoyer autant de façon informatique que par la poste. Et c'est aussi possible, si vous n'avez pas accès à Internet, ce qui m'étonnerait étant donné que vous écoutez ce podcast-là, mais si vous pensez à des gens autour de vous qui voudraient participer, c'est possible d'appeler la ligne d'écoute au 1-888-505-1010 et de mentionner à la personne qui va vous répondre, qui est une personne à l'intervention, que vous voulez vous inscrire au projet. La personne va remplir le formulaire avec vous avec un grand plaisir. Et nous, ensuite, on vous recontacte pour les jumelages et vous expliquer la marche à suivre.
Génial. Ça me fait réaliser que c'est vrai, on a parlé de Trade Union parce que, bon, dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est là-dessus que je voulais me concentrer, mais Interlink, vous offrez toutes sortes de projets aussi. On va inviter tous nos auditoristes à aller visiter votre site web ou vous suivre sur vos pages Facebook et Instagram qu'on va mettre dans les notes de l'épisode parce que, c'est ça, vous pouvez aider toutes sortes de monde, puis pas juste les gens de la communauté LGBTQI2A+, mais aussi l'entourage, je pense. Hein?
Oui, tout à fait. Toutes les personnes, en fait, qui sont concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, on est là pour écouter, répondre aux questions. On offre différents services aussi en milieu scolaire, en milieu jeunesse, en milieu de travail. Donc, vraiment, sur le site web interligne.co, vous allez trouver les informations et comme j'ai dit, vous pouvez toujours appeler à la ligne d'écoute. Ça nous fait vraiment plaisir de vous entendre, de vous guider à travers nos services et d'être là avec vous.
Bien, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour le temps que tu accordes en général puis l'énergie que tu mets à essayer de faciliter la vie des gens LGBTQI2A+, avec toute votre équipe. C'est vraiment génial. Fait qu'hésitez pas tout le monde à faire appel à leurs services puis tous les liens vont être sur nos plateformes de balado-diffusion, comme à l'habitude. Ceci est la fin du segment non artistique du jour de Tout ou Pantoute.
Encore vraiment merci beaucoup à Mireille d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Je pense que c'était une bonne idée de parler d'un programme précis puis de commencer à nommer les ressources dans le fond qui existent puis d'en parler dans le podcast. Moi, j'ai trouvé ça full intéressant. Toi, Alex, à quoi ça t'a fait penser tout ça?
Ah mon Dieu, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est tellement un programme malade. Tu m'as genre allumé plein de réflexions. Mais comme, entre autres, vraiment niaiseux, mais comme moi, j'avais full des amis de correspondance quand j'étais enfant. Genre, j'aimais tellement ça. Premièrement, je correspondais avec ma grand-mère par la poste. Mais elle imprimait ses lettres parce qu'elle disait qu'elle écrivait trop mal. Puis j'avais aussi des amis que j'avais rencontrés, genre dans la revue Les Débrouillards à laquelle j'étais abonnée. Puis avec la famille de mon grand-père d'adoption qui est français, fait qu'avec la famille à lui, genre sa fille, qui a à peu près l'âge de mes parents, puis là, qui me racontait sa vie en France. Je trouve que c'est vraiment un bel outil pour une enfant comme de de découvrir la vie de des personnes, soit dans d'autres pays ou dans le même pays, puis de diverses générations. C'est vraiment le fun.
Ouais, clairement. Moi aussi, j'ai eu des correspondantes, ben deux correspondantes en France, genre des jeunes de mon âge. Une que j'avais trouvée sur Internet, puis une autre que j'avais trouvée à l'école, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, moi, le côté manuscrit. Tu sais, je me rappelle mes premières lettres de mes correspondantes françaises de comme réaliser que, ah, ben, crime, l'écriture, c'est pas la même. Je me rappelle des X que je reconnaissais
c'est vrai,
pas.
Hein? Ouais. Ouais. Les chiffres aussi.
Ouais, les chiffres, c'est vrai. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vraiment comme un niveau de sentiment de quelque chose de personnel puis d'intime. Mireille en parlait dans l'entrevue, mais le côté manuscrit, ça me faisait vraiment ça. Tu sais, même au secondaire, moi, je me rappelle que je mettais des petites touches de moi pour être poétique sur genre mes examens ou n'importe quoi. Mm-hmm. Là, je dessinais au surligneur, je mettais des gommettes. Il y a des profs qui aimaient full ça. Il y a des profs qui avaient presque... Je me rappelle une fois de m'être fait dire que c'était presque des avances sexuelles. Puis j'étais comme là, j'ai dessiné au surligneur puis j'ai mis des gommettes de Calinours. Là,
voyons!
Ça va. Mais tu sais, comme... C'est juste pour dire comme à quel point ça connote de l'intimité, mettons, le côté manuscrit ou le dessin, tu sais, ce qu'on fait carrément avec nos mains manuellement.
Oui, c'est vrai.
Puis je trouvais ça full intéressant. Puis une affaire qui me trotte souvent dans la tête en parlant d'écriture manuscrite, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu voué à disparaître de plus en plus, quand même, parce que, ben même moi, avant, je pouvais écrire des pages et des pages et des pages, puis là, après une demi-page de cahier, genre 8,5-11, j'ai mal au poignet, puis je m'endure plus, tu sais. Puis j'écrivais toujours comme ça avant, mais je pourrais toffer à l'ordi pendant des heures. Mm-hmm. Puis je me demande un peu c'est quoi là, l'avenir de l'écriture manuscrite. Est-ce que ça va être une façon secondaire d'écrire, genre un dépannage pour quand la technologie nous lâche? Je sais pas. Ça m'intrigue. Mais peu importe, il y a plein de façons de communiquer autrement quand même, c'est sûr. Mais je trouve ça vraiment intéressant, ce programme-là, qui met ça de l'avant.
Faut le garder ça puis pas le perdre. C'est vrai que moi aussi, là, je m'endure plus quand j'écris trop. Puis aussi, je trouve ça moins vite. Ça va moins vite que qu'est-ce que je pense. Fait que des fois, j'aime moins ça. Mais ça dépend pourquoi.
Ouais, puis carrément aussi, le phénomène du copier-coller. Ouais. Moi, je me rends compte que quand je ne peux pas faire ça à l'écrit, maintenant, j'ai vraiment plus de misère à organiser mes idées.
Moi aussi.
En le faisant.
Moi aussi.
Ou il faut travailler sur des fiches pour pouvoir décoller puis bouger nos choses. Mais avant, c'était même pas une option, ça, de prendre une idée, d'aller la pitcher ailleurs en 2 secondes. Puis, ouais, en tout cas, ça change vraiment du côté technologique versus manuscrit, ça change notre vision des textes.
Ouais, notre façon de travailler, ouais, clairement.
Ouais. Mais reste que ben le côté, correspondance.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis je me rappelle que depuis que je suis tout petite, j'ai toujours trouvé ça plus facile de communiquer à l'écrit qu'à l'oral, t'sais, même encore aujourd'hui.
Ah, moi aussi, ouais.
Tu sais, quand on a des gros dossiers à régler ou des trucs vraiment émotifs, ben moi, j'aime vraiment mieux le faire à l'écrit, mais souvent, les gens, ils trouvent que c'est comme fuir la conversation, de pas vouloir se parler directement ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment une façon de mettre mes idées en place puis de prendre le temps de choisir les mots que je veux employer vraiment soigneusement pour que mes idées soient claires, pour pas blesser l'autre inutilement, genre, en me trompant de mots. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'ai même le goût de mettre en place avec mes enfants, genre, quand ils vont savoir écrire. Tu dis que tu le faisais avec ta grand-mère, mais tu sais, que ce soit avec moi ou avec d'autres adultes ou d'autres personnes, je trouve que avoir cette liberté-là d'écrire puis de prendre le temps de réfléchir à ses émotions, c'est quelque chose de quand même précieux.
Full, vraiment.
Même en sortant de l'écriture manuscrite, là, moi, j'ai plein de relations qui se sont bâties sur MSN. Bonjour, Maïlie! qui sont comme des relations super marquantes encore aujourd'hui parce que ben, je me donnais justement plus de liberté qu'à l'oral ou qu'en face-à-face. Fait que, hey, c'était un gros monologue pour dire « Bravo, j'aime ça l'écriture! »
Non, mais t'as raison, moi aussi, je trouve que ça peut... Souvent, c'est vu comme étant moins respectueux de dire quelque chose d'important par écrit, mais en tout cas, c'est complexe, là, puis je comprends pourquoi ça peut être vu comme ça, mais moi, des fois, j'ai l'impression que c'est plus respectueux pour l'autre personne parce que je vais vraiment dire qu'est-ce que je voulais dire, puis je vais pas m'emporter. Mais des fois, ça peut être un point de départ pour une conversation par la suite, par exemple, tu sais.
Ouais, absolument.
On peut avoir plein de façons de voir ça.
Puis dans l'époque où on est, l'époque des textos puis de Messenger et compagnie, justement, ça fait en sorte que la personne peut le lire ou le recevoir au moment où la personne est disposée à le faire. Ça, il y a un côté de respect là-dedans aussi, je trouve.
Ouais.
Qui est nouveau, en quelque sorte. Là.
Tout à fait. Mireille a parlé dans l'entrevue des stéréotypes envers les générations plus jeunes ou entre les générations. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait de la recherche pour voir si on pouvait nommer des grandes différences entre les générations, tu sais, comme on entend souvent dans le discours populaire. Puis là, guess what? Pas tant que ça, finalement.
Ah, oh, yes! J'adore! T'as-tu plein de preuves tangibles pour nous?
Ouais, ben, comme j'aurais vraiment pu tomber encore plus dans un rabbit hole, mais allons-y. Mettons, si on parle de notre génération, à toi puis moi, Laurie, puis j'ai l'impression que la majorité des personnes qui nous écoutent, on est des milléniaux. Wikipédia dit que les milléniaux sont nés entre 84 et 96. Donc, ils ont aujourd'hui entre 37 et 25 ans.
Mm-hmm.
Pour vous donner une idée, finalement, les milléniaux, tu sais, on a vraiment une réputation de maudits paresseux, paresseuses, puis qu'on n'est pas capable de garder une job, qu'on n'a pas le même profil d'employé que la génération plus vieille, que la génération X, puis les boomers aussi. Mais au même âge que nous, la génération X gardait leur job en moyenne aussi longtemps que nous.
Ouais.
Tu sais, on se fait tout le temps dire qu'on jump d'une job à l'autre, mais en moyenne, c'est très le genre, etc. Ben, tu sais, des gens au cœur d'une même génération n'ont vraiment pas la même attitude par rapport au travail ou à la famille, etc.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est important de garder ça en tête. Il y a des différences de contexte socio-économique, évidemment, entre les générations. Tu sais, il va y avoir, par exemple, un événement, genre une crise économique en 2018, tu sais, aux États-Unis, puis par extension au Canada, quand nous, on sortait de l'école, tu sais, dépendamment des milléniaux, quand on sortait, genre, on arrivait au cégep ou quand on sortait de l'université, dépendamment. T'sais, ça ne nous a pas donné bien ben de chance de se trouver une job. Puis ouais. Ça se trouve à être comme un de nos défauts, selon les critiques de notre génération. Mais il y a des limites dans ce qui peut être notre responsabilité là-dedans.
Mm-hmm.
Puis on continue de vivre puis de grandir dans une période qui est difficile, mais en tout cas différente de celle de nos parents puis nos grands-parents. On vit financièrement moins bien que les générations précédentes. Non, on vit généralement quasiment égal que les générations précédentes, mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'écart entre les personnes qui sont éduquées ou non est significativement plus grand. Tu sais, par exemple, les personnes qui vont être allées à l'université vont être vraiment plus riches que les personnes qui ne seront pas allées. Puis ça, c'est un écart qui se creuse les générations. Ouais, fait que ça, c'est une des différences. Fait que voici mon mini topo. Je vais vous mettre les liens si vous voulez fouiller. Je trouve ça vraiment passionnant.
Mais ça, j'adore ça.
Puis ton entrevue m'a aussi amené à réfléchir aux discussions qu'on peut avoir importantes au sein même des familles, tu sais, entre les générations, mais au sein même des familles. Puis j'ai pensé à ma mère. Mon grand-père est décédé il y a quelques années, puis juste avant, ma mère, elle lui a demandé de lui redire l'histoire de sa vie. Tu sais, on le sait, comme par où nos parents ou nos grands-parents sont passés, mais comme, OK, passe du début, là, puis fais-moi vraiment comme l'histoire de ta vie. D'une façon chronologique. Puis j'ai fait la même chose avec ma grand-mère récemment, même si elle est top shape, mais comme je trouve ça malade de voir. T'sais, on sait que c'était tough, les générations d'avant et tout, mais tu sais, mon grand-père qui faisait vivre sa famille à 14 ans, ma grand-mère monoparentale, super jeune, dans les années 70, se le faire raconter d'un bout à l'autre, c'est vraiment impressionnant. Puis ça nous fait... Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment encore plus trouver que ces personnes-là actuellement étaient hot, tu sais, étaient vraiment... comme impressionnante.
Ben oui, parce qu'on en parlait un peu dans le dernier épisode, mais c'est vrai qu'une partie de l'intersectionnalité, qui est ce à quoi on aspire un peu tout, ben ça se passe au niveau des mélanges générationnels, puis je pense que ça peut vraiment bénéficier à tout le monde. T'sais, moi, j'ai été super proche de mon arrière-grand-mère par alliance quand je suis arrivée à Montréal, puis c'est une relation qui m'a vraiment beaucoup marquée puis énormément appris. T'sais, on se rejoignait sur plein de points, elle était vraiment ouverte, puis je suis jamais tomber sur un sujet tabou avec elle. Alors que oui, avec plein de monde autour de moi, tu sais, ça clashait plus avec des gens qui avaient le même âge que moi dans mon cercle d'amis parfois qu'avec elle. Puis ces histoires, j'avais jamais à me forcer pour les écouter comme on a souvent l'idée de aller désennuyer des personnes âgées, mais comme c'est pas ça nécessairement. Ces histoires étaient super intéressantes, ça me faisait ils me popent dans la tête encore vraiment souvent parallèlement à des choses que moi je vis quotidiennement. Puis ça m'a fait réfléchir à c'est quoi la différence finalement, parce que comme on, tu sais, entre elle et moi, mettons, il y avait beaucoup, beaucoup de points communs. Puis c'est quoi la principale différence? Puis je me suis rendu compte que je pense que c'est le rythme de nos vies. Puis c'est une distance, c'est quelque chose qui crée une distance, je pense, puis que je constate avec d'autres personnes plus âgées que je côtoie.
Ouais.
Puis moi, je mets ça vraiment en lien avec la technologie parce que ça nous donne accès à une instantanéité vraiment particulière. On a l'information au bout des doigts. Là, on peut tout savoir ou faire par nous-mêmes avec nos téléphones qu'on a dans les poches. On peut virer de l'argent, changer notre adresse sur des sites gouvernementaux, savoir la météo. Ça a clairement un impact sur notre capacité à attendre, je pense.
Ouais,
puis les délais qui avant étaient perçus comme courts nous semblent vraiment aujourd'hui comme interminables. Puis c'est un des principaux clashs que je vis dans mes relations intergénérationnelles. Mais c'est aussi une des plus grandes richesses que ça m'apporte parce que ces relations-là me rappellent vraiment l'importance de prendre son temps. Puis pas juste parce qu'avec l'âge, bon, parfois la mobilité devient plus difficile, la motricité aussi, fait que les actions peuvent prendre plus de temps. Mais il y a aussi une question de valeur ou de vision de la vie. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Tu sais, prendre le temps de mener nos projets à terme, puis nos actions à terme, accepter de ne pas connaître l'exacte durée d'un trajet, genre, planifier du lousse au cas où, quand on part.
Oh my God! Et qu'on fait plus ça!
Mais non, on rôde notre journée au quart de tour selon les prévisions du trafic, puis Google Maps, puis la météo. Est-ce que l'autobus peut potentiellement être en retard? On peut tout savoir, genre.
Ouais.
Puis c'est fou, là. On n'a plus de lousse. On n'a plus le temps d'arriver à l'avance quelque part, de s'asseoir, puis de respirer, puis de regarder c'est qui est autour, c'est quoi qui est autour, on est où, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important d'y reprendre accès. Puis entre autres, prendre le temps de s'écouter, de se parler, de se faire un thé, de s'asseoir pour boire en jasant, tu sais, de prendre le temps de le faire. Tantôt, je disais, bon, moi, j'aime ça en différé, j'aime ça avec l'écriture, mais c'est vrai aussi que c'est quand même un art, la conversation, le face-à-face, ça transmet des choses. Puis je sais que moi, je le fais encore avec des amis proches, mais c'est quelque chose qui est plus difficile pour moi que de le faire à l'écrit. Puis je me dis, Chris, on est une grosse gang à avoir besoin de thérapie ou à être déjà en thérapie. Puis, tu sais, oui, il y a en tout cas, certains d'entre nous, comme moi ou d'autres, ont des problèmes de santé mentale, entre autres, mais aussi juste le besoin d'être écouté attentivement puis réellement, genre. Puis pourtant, on parle full de solitude chez les aînés, comme si c'était juste elle qui manquait de contact meaningful. Là,
non, mais
pas nous, mais...
Ah, ben oui.
Parlons-nous, tu sais. Fait que c'est mon point numéro un. Quel bel addon, c'est exactement ce qu'Interlink propose avec le projet Trait d'Union. Mm-hmm. Mais je vais vous mettre aussi, dans les notes d'épisode, je vais vous mettre sur la piste du réseau des maisons des grands-parents. Il y en a à Joliette, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, Laval, Sainte-Foy. Il y en a plein. Mais il y a plein d'activités intergénérationnelles, toutes plus tripantes les unes que les autres, là, autant de l'aide aux devoirs par les aînés pour les ados puis les enfants que des troupes de théâtre, des ateliers de cuisine ou des projets juste pour les aînés aussi. Fait que je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Je trouvais ça important.
Ah, je connais pas ça, les maisons des grands-parents. C'est bon, mais hot.
Merci. Ouais, la première a été fondée à Villeray, puis moi, je suis dans Villeray en ce moment, puis c'est super actif. Fait que c'est vraiment intéressant.
Très hot. Hey, qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait penser à un livre que je viens juste... Ben, en fait, c'est mon cadeau de fête que j'ai demandé à mon chum. C'est un livre qui s'appelle « How to do nothing » par Jenny O'Dell. J'en ai beaucoup entendu parler, puis j'ai lu juste l'introduction, là, fait que je peux pas en parler, mais c'est exactement là-dessus. C'est comme... Parce que qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait penser à... Tu sais, oui, se parler, mais se parler aussi en étant comme complètement présente. Puis c'est beaucoup ça aussi, prendre le temps de... Dans le fond, elle, c'est un peu un plaidoyer pour se distancier de l'économie de l'attention, donc de tout ce qui est médias sociaux, puis qui prennent, c'est ça, de la place dans nos vies, puis qui nous amènent à gérer nos relations d'une façon différente. Fait que super intéressant puis pertinent.
Ah, j'ai hâte que tu le lises.
Oui, je vais sûrement... C'est sûr que je vais en reparler ici parce que c'est trop important puis intéressant. Ton entrevue m'a fait aussi penser, il y a vraiment quelque chose qui m'a comme un peu, tu sais, choquée, mais tu sais, que je savais, mais qu'on dirait que vous l'avez dit en mots, c'est la hiérarchisation des gens selon si ils sont actifs ou actifs, s'ils contribuent à la société, tu sais. C'est, tu sais, comment les personnes plus vieilles, on a l'impression qu'ils contribuent plus à la société parce qu'ils travaillent plus, mettons, entre autres. Mm-hmm. Tu sais, c'est beaucoup ça, tu sais, s'ils sont retraités, on les... Carrément, je pense que c'est population active puis population inactive, genre dans les papiers officiels. Mais tu sais, c'est quoi être actif? C'est quoi contribuer à la société? C'est vraiment une vision fucking capitaliste de la société que genre,
ben oui.
Si t'es pas en train de travailler, t'es rien, genre, tu sers à rien. On attend que tu sois plus là.
Ça a pas de sens.
Puis tout ça me fait penser à l'éthique du care, ma nouvelle passion en développement.
Ooh.
Qui est aussi une passion en développement de toi, Laurie, je pense.
Oui.
OK, j'ai essayé de vous faire un petit topo. Pour moi, le concept de l'éthique du care, c'est une nouvelle découverte vraiment importante. Je l'ai seulement effleurée, mais je me promène de mieux la comprendre puis de mieux la connaître. Mais mettons, tu sais, si vous avez fait votre cégep, vous avez eu des cours de philo. Fait que vous, on a vu un peu dans ces cours-là les grands principes éthiques, tu sais, les grands courants philosophiques autour de qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est bien, comment définir la valeur d'une vie, comment définir la valeur d'une personne, comment prendre des décisions difficiles des fois, qui par exemple vont influencer la vie de certaines personnes en considérant le plus de variables possibles, comment on choisit ces variables-là, tu sais, c'est parmi les réflexions qu'on avait. Puis là, les plus jeunes pourront me dire si ça a changé, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'éthique du care dans mon contexte scolaire avant l'université. Puis je suis ben à bout parce que c'est aussi, sinon plus pertinent que Descartes et fucking Aristote. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est issu des réflexions féministes, fait que c'est sûrement du niaisage de bonne femme, fait que sûrement que ça sert à rien qu'on apprenne ça aux jeunes. Bref, l'éthique du care me fascine parce que elle prend en considération ça, justement, qu'est-ce qu'on connaît déjà de l'éthique, mettons, traditionnelle ou de la morale traditionnelle, puis elle en fait une espèce de critique, puis il propose des alternatives vraiment ancrées dans le concret. En gros, la façon dont on tend à voir le monde puis la façon dont notre société est construite est beaucoup basée sur des notions d'autonomie puis la notion de justice. Tu sais, selon les philosophes, mettons plus traditionnels, ces morales-là se basent beaucoup sur des règles rationnelles pour s'assurer de vivre dans une société égalitaire. Tu sais, Rox avait parlé dans un épisode précédent de la différence entre égalité puis équité, que l'égalité, ouais, c'est comme donner les mêmes outils à tout le monde, tu sais, avec un peu des règles rationnelles. Tu sais, c'est beaucoup ça qu'on a vu dans nos cours de philo, mais pas prendre en considération qu'on part pas tout en même place, contrairement à l'équité, mettons. Mm-hmm. Je pense que je résume ça d'une façon potable. Mais l'éthique du care, à place de se baser sur les notions d'autonomie, elle se base sur la notion de vulnérabilité. Donc, la première personne à utiliser le terme de l'éthique du care, ça a été la philosophe américaine Carol Gilligan dans un livre qui s'appelle Une voix différente en 82. Donc, c'est quand même assez récent. Ouais. Puis, ça rejoint exactement ce dont on parle aujourd'hui parce qu'une personne qui vieillit, par exemple, va être de moins en moins autonome puis de plus en plus vulnérable. Tout comme un jeune enfant ou une personne avec un handicap plus ou moins important. Mais est-ce que c'est une raison moralement pour la tasser sur le côté puis faire de la place aux personnes qui sont plus autonomes? Bien, selon l'éthique du care, non. T'sais. Dans le fond, un des principes de base, puis je résume vraiment, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais un des principes de base, c'est d'admettre que tout le monde, tous les individus sont vulnérables, tout le monde, même les personnes qui sont les plus privilégiées, puis on a besoin des autres. Ouais. Que ce soit pour manger, on en a parlé dans nos épisodes sur l'éthique animale, par les personnes qui apportent la nourriture sur nos tables par leur travail agricole, pour se protéger, aussi parce qu'on est des êtres sociaux, tu sais, on peut pas vivre isolé, on le voit dans la pandémie actuelle, on a besoin des autres.
Ouais.
Fait qu'une fois qu'on admet qu'on a besoin les unes des autres, ben comment on fait pour que ça fonctionne dans une société, puis comment on fait pour que tout le monde puisse reposer sur les autres, dans le fond, puis que tout le monde y participe d'une façon adaptée un peu à sa situation. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, comme société en ce moment, on a choisi plus de miser sur l'autonomie puis sur la productivité, mais on peut s'assurer de créer des normes puis un système de justice qui prend en compte la notion de vulnérabilité puis qui la centre. Puis c'est ça, dans le fond, je vais mettre des références si vous avez le goût d'en apprendre plus sur l'éthique du care, mais ça me semble une notion vraiment centrale pour parler de bien-être puis de soins, puis de relations intergénérationnelles, puis de voir comment une société qui traite tous les groupes d'âge avec le même respect peut vraiment se porter mieux, je pense.
Ouais, vraiment intéressant. J'ai hâte de suivre tes notes parce que oui, c'est une passion qui commence chez moi, mais je suis pas aussi calée que toi encore. J'ai hâte.
Ça commence rien, mais c'est dans le fond, qu'est-ce que je comprends, c'est que ça change le focus de sur quoi on décide de baser nos réflexions puis notre société, à partir de quelles valeurs on décide de la construire. Puis là, pour terminer, j'ai une découverte de podcast sur le sujet du jour que je pense que tu as vraiment aimé, Larry. Ça s'appelle 70 over 70. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Non, pas tout.
OK. La prémisse, c'est... Tu sais, tu as sûrement entendu parler des maudits genre décompte 30 under 30, genre les 30 personnes les plus cool qui ont moins de 30 ans qui vont être la relève.
Ouais, ouais, ouais.
Que c'est genre fucking stressant parce que là, quand tu arrives à 30 ans, tu penses que genre, tu ne sers plus à rien. Mais donc, 70 over 70, là, je vais lire un peu la prémisse, c'est l'animateur qui s'appelle Max Linsky s'assoit pour un large éventail de conversations franches, surprenantes, poignantes et approfondies avec des invités de marque pour explorer non seulement leur passé, Donc, c'est des personnes qui ont plus de 70 ans. Puis, ils explorent avec eux non seulement leur passé ou leur plus grande réalisation, mais aussi leur vie actuelle et les grandes questions que nous posons, genre, tu sais, comment tirer le meilleur parti du temps qu'il nous reste, qu'est-ce que ça signifie de bien vivre. C'est des réflexions que tout le monde a, peu importe notre âge. Puis, j'ose dire avec les personnes en n'étant pas juste genre, parle-moi de ton passé, mais genre, comment tu vis aujourd'hui en tant que personne encore active.
Oui.
Je trouve ça malade.
Ah, oh, vraiment intéressant. Ça, j'ai hâte de l'écouter. Je dis tout le temps que j'ai hâte de l'écouter, c'est toujours vrai, mais je pense que ça va être un peu dans le top de mes priorités dès qu'on finit la saison, là, bientôt. Là.
Oui,
je vais mettre ça dans mes écouteurs.
Oui, c'est de qualité supérieure sonore aussi, c'est bien fait.
Ah, génial. Puis, une autre affaire que je peux pas finir un épisode sur les réalités intergénérationnelles sans parler de ma télésérie presque préférée au monde, puis la conseiller à nos auditoristes qui l'ont pas écouté, c'est Grace and Frankie. Si vous avez pas écouté Grace and Frankie sur Netflix, allez-y, les personnages principaux sont des personnes âgées relativement, qui ont plus de 65-70 ans. Il me semble qu'ils ont plus que 70. Mais ils sont full relatable, genre. On peut vraiment se reconnaître dans ces personnages-là, même les gens de notre génération, en tout cas moi. Mais en même temps, on qualifie mon style de un petit peu, vintage.
Je l'ai pas écouté.
Je l'ai pas écouté.
Je suis curieuse, non?
Il faut
s'en donner une nouvelle. That's it! Ah, sur ces recommandations culturelles, on va conclure cet épisode de Tout pour Tout. Oui. Puis vous, à la maison, avez-vous été assez smart pour apprendre le bridge comme mon petit frère pour jouer avec votre grand-mère? Croyez-vous à ça que le cœur ne vieillit jamais, puis que quand on aime, on a toujours 20 ans? Mon pire cauchemar, avoir toujours 20 ans.
Non! On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram, sur Facebook, et on a même un courriel, Tout ou Pantoute, avec E et S, là c'est pas clair, Tout, T-O-U-T-E-S, ou Pantoute, à gmail.com.
Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas à veille de l'atteindre.
Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, via des billets écrits à la main et distribués par Post Canada jusqu'aux confins de l'univers, ou par nous-mêmes en uniforme de facteur-factrice, écrivez-nous. On veut vous connaître et on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles.
SOS! Dans le prochain épisode, la semaine prochaine, on continue de parler de transmission de valeurs, d'éducation puis de liens intergénérationnels avec une invitée qui nous a fait sentir bien ma tante puis qui éduque des dizaines de milliers de personnes via TikTok et Instagram. Soyez là. Merci beaucoup à Mireille Saint-Pierre. De chez Interlink, les infos pour le projet Trait d'Union sont au bout de vos doigts dans les notes de l'épisode. Merci à Audrey Lamperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Suivez son projet Audio Brèche Cérébrale dans les notes de l'épisode. Et merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye!
Bye!
Interested in switching your internet service providers to a provider that provides better service of internet service providing than your current provider.
Radio stars are alive and well here on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Thanks for listening.
Mary Shad Curry. Born a free black in Wilmington, Delaware, in 1823, within a family active in the Underground Railroad, Mary Shad Carey was an educator, a writer and editor, an abolitionist, a women's rights advocate, and a suffragist. She founded several schools for both black and white students, the first when she was only 16, and served as a teacher and principal in many others. In 1851, she moved to Canada and established herself in Windsor, where she lived most of the second half of her life.
7e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara. Haïti en folie dans les rues de Montréal avec le groupe Rara Jazz, Rara Indigène et les danseuses d'Haïti Makaya ce samedi 29 juillet dès 16h. Départ au parc des Compagnons, coin Montréal et quartier. Aïe aïe aïe! Rara dans Montréal, nous tournons, pirate, vinaigre drapeau nous, costume nous, samedi 29 juillet, depuis 4 heures. Une initiative de la Fondation Fabienne Cola. Info, haitienfolie.com.
Fabienne Cola et le groupe Banque TD vous invitent au 17e festival Haïti en folie du 24 au 30 juillet avec projection du film Freda de Jessica Généus, gastronomie, artisanat, littérature, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Admiralté, BIC, Wesley, Wally, Basse Compa, défilé Rara et plus de 150 artistes. Aïe aïe aïe! Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 24 au 30 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et Théâtre Outremont. Infos et billets, Haïti en folie.com, supporté par Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, SAQ, Tourisme Québec, Ville de Montréal et Tourisme Montréal.
The Festival International Nuit d'Afrique invites you to its 37th edition in Montreal from July 11th to 23rd for a worldwide musical journey. Hundreds of artists from Africa, the Caribbean, and Latin America will entertain you with more than 150 concerts and activities for the whole family. Enjoy this festive and unique event rich in discoveries. Don't miss Blik Bazé from Cameroon, the famous Kora Knight with Sekou Keita and Zal Sissoko, or Saïd Meznaoui and Trans Nawa Fusion, and much more. Visit festivalnuitdafrique.com for the complete program.
Yeah. and gentlemen, comrades all. Welcome to Amandla Radio. I'm Doug Miller, and tonight we have Sama El-Biari bringing us two stories. The first is about the Egyptian Revolution of 1952 that saw the overthrow of the monarchy and the installation of the government of Abdel Gamer Nasser. And she's going to have a look back and review that. And the Reprieve UK has a campaign against the death penalty. In this case, it's with reference to Malawi. So starting with Malawi, what you're going to hear now is Lucius Bandas singing Tigwira Manja, holding hands, and we're going forward. Stay tuned to Amandla.